Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou sur internet campuslille.com. Au sommaire de cette émission, nous vous proposons une balade dans un pays de légendes où les fantômes et les monstres attirent encore quelques curieux, mais plus encore les voyageurs qui recherchent aussi un subtil mélange entre une nature brute et sauvage, un pays où la nature est chez elle, l'Écosse, terre de brune, avec Lionel de Courtail.
Bonjour.
Bonjour Lionel.
Bonjour.
Ah bah voilà, tu as vu, on a mis le ce qu'il fallait bien avec. Bonjour, effectivement, tu vas nous raconter ton voyage. C'est plus qu'une balade, hein. C'est une bonne dizaine de jours en Écosse. Alors à l'Écosse, quand même, hein, quand on parle d'Écosse, balade en Écosse, c'est quand même un pays mythique.
Une grande balade, un très très joli pays. J'ai vraiment adoré, j'ai vraiment apprécié. Bon, une nature un peu à l'état brut, un peu sauvage, et une belle balade avec plein de beaux paysages.
Alors, t'es parti avec une 1500 Goldwyn.
Oui.
6 cylindres.
Oui.
Hein, donc, c'est déjà la moto qui prend un peu de place sur la route, parce que bon, j'ai regardé les photos quand même là-bas. C'est assez étroit quand même.
Alors, il y a effectivement parfois des routes où on peut. C'est single track, je crois qu'ils appellent ça. Et puis, avec des passing place. Voilà, on commence fort déjà.
Va falloir que tu te redises.
On commence fort déjà. Hein. Passing place, qui sont des évitements en fait, parce que effectivement, il y a pas mal d'endroits où on peut pas se croiser à deux. Alors déjà, je crois avec une moto habituelle, bon, avec une moto avec un gabarit un peu plus important comme la mienne, c'est donc voilà, donc c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux.
Donc il y a une procédure en fait. Il y a pas de panneau, mais on.
Il y a des panneaux parfois. C'est marqué passing place justement. Et puis alors effectivement, il y a un protocole, une procédure. Tout est affaire de logique et de courtoisie.
Voilà. Surtout, oui. Apparemment, ils sont très très courtois les Écossais.
Ça fonctionne très bien.
C'est apparemment autre chose qu'en France.
Non, quand même.
Pas de commentaire.
Il y a moins de monde aussi.
Il y a moins de monde, effectivement, ouais. Mais j'ai été quand même surpris de voir que c'est quand même très touristique. C'est quand même très touristique. Je pensais pas croiser quand même autant de voitures, de camping-cars et quelques motards, énormément.
C'est quand même un beau pays, c'est une belle balade quand même.
Super.
On peut même passer au moins 3 semaines peut-être.
Oui.
Tu n'as pas eu le temps de monter carrément là-bas dans l'Island, tout en haut.
Les Highlands, c'est ce qu'on appelle, c'est un petit peu tout le côté nord-ouest de l'Écosse.
Cette fameuse faille.
Les hautes terres. Ouais,
les hautes terres.
Bon voilà, donc j'étais dans les Highlands, mais c'est un territoire assez important. Je ne suis pas monté tout en haut à l'extrême nord. Je suis monté au nord-ouest, mais pas tout à fait à l'extrême nord. J'ai des très beaux paysages.
Très bien. Alors, pour revenir à la moto, finalement, tu dis, c'est bien que j'avais cette moto parce qu'elle est bien équipée et bien, elle protège aussi le pilote parce que tu n'as pas eu forcément que du soleil.
Voilà. Alors, je m'y attendais un peu. Je savais très bien que, bon, l'Écosse, c'est quand même pas, c'est pas la Méditerranée. C'est pas la même chose. Donc, je m'attendais à avoir des températures un peu fraîchouillardes. Je m'attendais à avoir un peu de pluie, quelques averses, un peu de bruine. Bon, d'après les échos que j'ai pu partager avec d'autres personnes qui sont déjà allées en Écosse, je pense que j'étais particulièrement gâté. Sur une dizaine de jours, ça fait une quarantaine d'années que je fais de la moto, ça restera gravé dans la mémoire. Je crois que je ne m'étais pas souvent pris autant de flotte sur si peu de temps.
Tu t'es juré de mettre un essuie-glace sur ton pare-brise.
Alors, je sais pas, ouais, deux
ça,
même.
Ça va faire
pour aller
peu...
en Écosse, c'est pas un, c'est deux, je pense.
Effectivement, donc tu regardes à travers le pare-brise et effectivement quand il pleut c'est toujours assez perturbant et on voit pas, c'est pas la visibilité n'est pas terrible.
Voilà, hein. Surtout quand on prend des petites routes, on prend des petites grimpettes, donc on roule pas très vite et puis l'eau n'a pas le temps de s'évacuer, donc mais bon, c'est pas grave du tout, c'est plein de bons souvenirs.
Ah, ça, c'est pour te mettre dans l'ambiance.
Ça
danse de l'autre côté.
Ah, ouais, excellent. Ah, bah, ouais,
c'est pas breton, Gilles. C'est pas breton, c'est écossais.
Excellent, là. Voilà. Oui, la musique, la cornemuse, tout ça, c'est super sympa.
Est-ce que tu as eu l'occasion d'assister
pas spécialement.
Des fêtes populaires.
J'ai eu à un moment donné, il y avait deux personnes en kilt avec une cornemuse, mais c'était plus pour le folklore, c'était à Édimbourg. J'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure.
Voilà. Donc il n'y a pas 36 solutions pour aller en Écosse. Soit on prend le bateau, il y a une possibilité de prendre le bateau en Belgique, à Zeebrugge, je crois, et direction après, on arrive à Hull, c'est en dessous ou au-dessus d'Édimbourg. Mais le problème, le tarif est très 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 cher.
Voilà, alors effectivement, déjà comme je suis un très très mauvais nageur, je me suis dit bon,
de toute façon, il a fallu prendre le bateau quand
même. il fallait prendre le bateau. La Goldune n'est pas encore amphibie, ça marche pas. Et donc je m'étais un petit peu renseigné parce que c'est vrai qu'initialement j'avais pas trop envie de traverser l'Angleterre. Alors c'est peut-être une idée reçue que j'ai, c'est que l'Angleterre c'est assez plat, c'est assez urbanisé, c'est pas forcément très joli. Bon, voilà, donc je suis un peu revenu sur ma position, j'en parlerai aussi un peu après. Donc je m'étais un petit peu renseigné en disant je vais prendre, comme tu le dis, le bateau à Zeebruges en Belgique, ou éventuellement à côté d'Amsterdam, je ne sais plus le nom, enfin c'est du côté d'Amsterdam, et puis ça permet d'arriver soit pour le moins au nord de Londres, pour le plus un peu plus haut aussi, alors pas en Écosse mais un peu plus au nord de l'Angleterre. Et puis effectivement, quand j'ai vu les prix, j'ai complètement déchanté, surtout qu'il fallait réserver. Je suis pas vraiment un adepte des trucs un peu trop ficelés. J'aime bien, et comme le disait Nicolas, on en parlait deux secondes hors antenne, la moto c'est un peu la liberté. J'aime bien aussi avoir un peu de liberté et me dire, je vais dormir où je dormirai.
C'est plutôt le moteur à l'arrache, quoi.
Un petit peu. Bon, voilà. Et puis là, j'ai vu les prix. Grosso modo, c'était, donc pour moi tout seul avec ma petite moto, enfin ma grosse moto, c'était entre 500 et 1000 euros aller-retour. Ouais. Et j'ai dit, ça me paraissait vraiment un budget exorbitant. Et je voulais surtout pas mettre cette somme-là pour ça. Je me dis, 500 000 euros, je veux bien les dépenser pour partir, pour voyager, pour mettre du carburant, pour visiter ou autre, mais voilà. Donc j'ai complètement changé mon fusil d'épaule entre guillemets, et puis j'ai pris le bateau à Dunkerque jusqu'à Douvres, qui m'a coûté, je sais plus, 60 euros à l'aller et puis 50 euros retour, quelque chose comme ça, on va dire une centaine d'euros aller-retour, sans réservation. Donc je suis arrivé un jour au matin à Dunkerque, et puis j'ai attendu une demi-heure, trois quarts d'heure, j'ai pris le premier bateau venu, il n'y avait que deux motos dedans, il y avait des camions, des voitures, etc. Voilà. Donc traversée qui dure à peu près deux heures, je crois, Dunkerque Douvres. Et puis
Après là, il faut se payer toute la remontée. La remontée sur le nord, le grand nord en fait de l'Angleterre, et ensuite pour arriver donc presque à Édimbourg. Enfin, c'est même pas Édimbourg.
C'est plus haut, c'est un peu plus haut. Ouais. Voilà. Alors effectivement, alors le but premier, moi, c'était d'aller en Écosse. Donc j'allais dire, j'étais prêt à zapper un peu l'Angleterre. Et puis donc j'ai roulé de Douvres, j'ai pris un peu d'autoroute de quatre voies, ce qui est pas forcément ce que j'apprécie le plus, mais en même temps quand on se voit avancer, c'est quand même le mieux. Et puis en plus il y a pas mal de petites choses qui changent quand on arrive sur le territoire britannique, c'est que d'une part faut rouler à gauche. Ça j'avais jamais fait. C'était...
Ah, c'était une première.
Ah, c'était une première pour moi. J'ai roulé un petit peu partout en Europe, mais je n'étais jamais allé chez nos cousins anglais, donc j'aimerais rouler à gauche.
Alors, le premier rond-plein, ça fait tout drôle.
Voilà, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que on s'y fait très vite. De toute façon, on n'a pas le choix. Et puis on suit un peu le flow. C'est vrai que le premier rond-point, on a tendance à attendre les voitures qui arrivent d'un côté, puis elles arrivent de l'autre. Et puis c'est un peu, il y a un petit côté jeu de piste au départ. Comme j'aime bien les rallyes touristiques, ça m'a bien plu. Je dis on s'habitue, tout va bien. Donc j'ai dû faire au moins 500 bornes faciles, donc sur des quatre voies, des autoroutes qui sont très 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 fréquentées, c'est très chargé. J'ai réussi à me débrouiller au niveau des indications. Il y a ce qui s'appelle London Orbital, c'est l'espèce de grand périph tout autour, donc ça a été je passais par Dartford Crossing, si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire c'est sur en arrivant c'est à l'est de Londres pour au-dessus de la Tamise, donc un coup c'est en tunnel et un coup c'est en pont, je ne sais plus dedans. On part c'est en tunnel et quand on revient c'est en pont, ou l'inverse, je ne sais plus, enfin bref, peu importe. Et puis puis à un moment donné je me suis rendu, quand je voyais toujours la direction Heathrow avec un avion, l'aéroport d'Heathrow, et je me dis une fois, deux fois, trois fois, je me dis je suis peut-être pas bon là, donc je me suis arrêté, j'ai regardé ma carte parce que j'ai pas de GPS,
je
suis pas un adepte du GPS.
Première fois en Angleterre, première fois rouler à gauche, pas de GPS.
Ouais.
Une bonne carte suffit, remarque.
Voilà, exactement. Donc je me suis dit je dois pas être je m'en vais plus sur l'ouest, c'est peut-être pas ça, donc je me suis arrêté. Voilà, voilà, puis j'ai rattrapé après ma route et donc voilà, donc j'ai fait ce... Et puis quand je suis arrivé au nord de l'Angleterre, bah, j'ai trouvé qu'il y avait des coins et des paysages qui étaient pas vilains du tout, avec des petites routes étroites, avec des petits murets par endroits, avec des paysages, alors montagneux, la montagne, la petite montagne, hein, mais sympa comme tout, avec des petits villages, avec des maisons un petit peu, enfin qui ont un charme, qui sont un peu typiques, et ça m'a bien plu. Donc je reviens un peu sur mon idée initiale que l'Angleterre c'est pas beau. Et je pense que l'Angleterre, il y a des beaux coins.
Si, en Angleterre, je pense qu'il y a aussi des beaux paysages aussi à visiter, enfin des endroits, des régions à visiter.
Tout à fait. J'ai pris à un moment donné du côté de Keswick, donc le parc de je ne sais plus quoi, il y a un parc naturel là, et des petites routes qui serpentent dans la montagne, dans la petite montagne, avec des petits murets sur les côtés. Un peu, je pense, on en parlait hors antenne, un peu, je pense, à l'image de certains paysages d'Irlande, et j'étais très très agréablement surpris. Donc voilà, une belle petite balade au nord de l'Angleterre. Je me suis permis même j'ai passé une nuit en auberge de jeunesse. On ne sourit pas vu mon grand âge, merci.
Voilà, mais c'est vrai que les auditeurs peuvent pas le voir. Ça a dû paraître bizarre quand même, non, voir tous ces jeunes.
Les auberges de jeunesse, la miche, il n'y a pas d'âge.
Il n'y a pas d'âge, bon, d'accord.
C'est dans la tête que ça se passe.
Voilà.
D'accord, très bien.
Et donc c'était vraiment, vraiment un... Et puis j'ai fait une petite balade là au nord d'Angleterre avant d'aller vraiment en Écosse, de franchir le...
On passe un morceau de musique et après on passe la frontière. Il y a une frontière, non, entre l'Angleterre et l'Écosse, non? Non?
Il y a une frontière un peu fictive, on va
oui,
dire.
On dit oui, on dit oui,
ouais,
il y a une frontière.
Ouais, bon.
On dit oui, d'accord. Bon, ok, allez, on passe un morceau de musique et forcément on se retrouve après parce que tu nous racontes tout ce qui est des aventures.
préparé un four musical pour l'occasion aussi, Lionel. Hein. Ouais. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, le sujet, on part en balade, on part en Écosse. Hein. Donc, on a traversé toute l'Angleterre. On arrive à cette... J'ai la carte, hein, une espèce de frontière, mais qui est virtuelle, en fait.
Oui,
hein, bah, il n'y a pas de poste de police. Voilà.
Avec ce qui, mais
est-ce qu'on sent qu'on rentre en Écosse?
Pas plus que ça.
Non.
Bon, il y a les ruines du mur d'Adrien là, qui était une espèce de frontière entre les deux. Alors non, parce que bon, on sent qu'en rentrant en Écosse, pas plus que ça, puisque on est toujours obligé de payer en livres. Les mètres, ça se compte toujours en yards, et les kilomètres en miles. Mmh. Et si je parle français ou ch'ti, ils comprennent pas.
D'accord. Voilà. Tu parles anglais au fait?
Oh là. Oh là là. Ça a été terrible, ça. Parce que je parle très, 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 très... Enfin, j'arrive à peu près à me faire comprendre, sauf quand la personne me répond...
Alors, c'est, ouais. Il faut dire que les Écossais, ils parlent pas très bien anglais. Hein.
Mais aussi.
D'après ce qu'on peut voir un peu sur les sites, c'est qu'ils roulent un peu les...
Il y a un accent terrible.
Alors,
c'est infernal.
Voilà. Donc, paysage très très vallonné, très montagneux, avec beaucoup d'eau. Alors moi, c'est aussi ce que je retiens. Alors, il y a celle qui tombe du ciel. On en a déjà un peu parlé, on en reparlera peut-être encore, mais on comprend très vite. Effectivement, vu tout ce qui tombe du ciel, on comprend très vite aussi pourquoi il y a beaucoup d'eau. Donc il y a les lochs. Le plus connu étant le loch Ness. Il y a les lochs, mais il y a aussi tous les torrents, les rivières, les cascades.
Tu m'as dit aussi plages de sable magnifiques.
Des plages superbes, des plages. Dire quand on les voit, on serait tenté de dire on est sous les tropiques, parce qu'il y a des plages de sable avec parfois la mer qui est bleu turquoise, qui est très jolie. Bon, sauf qu'effectivement, la température de l'air et de l'eau, c'est pas la même que sous les tropiques. Voilà. Mais c'est vrai que c'est super, super joli, plein d'eau. Et alors, on se prend de l'eau sur la tronche, effectivement. Mais l'avantage, c'est quand même d'avoir ces pays, puis ces paysages qui sont très, avec des couleurs très vertes, avec l'herbe, la tourbière, etc. Et puis, c'est vrai que quand on est un peu dans les nuages, alors c'est ce qui m'a un peu frustré le plus, parce que j'ai quand même eu beaucoup, beaucoup de flotte sur les 8-10 jours où je suis allé là-bas. Des fois, c'est un peu frustrant parce que le paysage est un peu caché. Mais en même temps, les cascades, elles redoublent de puissance et d'intensité, et ça donne quand même des choses sympas.
Donc il faut partir équipé, forcément, en combine, sur bottes, sur gants.
Alors j'ai la chance, tu l'as rappelé tout à l'heure, d'avoir fait ça sur une deux roues. J'appelle des fois ça mon camping-car à deux roues, parce que c'est vrai, bon, voilà, c'est une Goldwyn. Mais c'est vrai qu'on est vachement protégé. J'ai pu encore le tester. Alors, je veux pas dire que j'ai pas du tout été mouillé, mais j'ai pas été mouillé à l'avenant de ce que j'ai eu sur la tête. J'ai pu tester que mes chaussures, elles prenaient pas la flotte. Déjà, c'est bien d'avoir les pieds au sec. Le reste a été à peu près aussi. Bon, après, c'est surtout au niveau des paysages. Puis après, c'est bon, la visibilité. Et puis, l'adhérence au sol, ça on le sait tous, hein, le commun des mortels qui a déjà monté sur un deux roues motorisé, même non autorisé, on sait très bien que dès que la chaussée est humide et dès qu'il pleut, on n'y voit pas grand-chose et puis ça glisse de partout.
Donc, tu te savais bien que j'allais te poser la question, tu te doutais certainement que tu...
Est-ce que j'ai mis un kilt aujourd'hui pour venir ?
T'as mis un kilt aujourd'hui, t'as pas mis de kilt, mais tu es allé au Loch Ness, parce qu'il y a cette fameuse, cette fable, c'est pas, alors je sais pas si c'est une fable ou c'est vrai ou pas vrai, on sait pas, est-ce qu'il existe vraiment ce monstre de Loch Ness ?
Je n'étais pas très loin, je ne suis pas passé au Loch Ness, je n'ai pas vu le monstre, je suis désolé de te décevoir.
Ce fameux lac, là, il est le long de cette faille, hein, qu'on appelle
le Caledonian Canal.
Voilà, donc en fait, ça sépare. Donc c'est en fait, après ce canal, c'est cette faille, c'est les hautes terres, les Highlands.
Alors
le Caledonian Canal, c'est visiblement ça permet de relier les deux.
L'océan Atlantique à la mer du Nord.
Ouais, voilà. Enfin, c'est les deux côtés maritimes de l'Écosse. Et donc, ça m'est même arrivé d'être bloqué sur la route parce qu'il y avait un pont tournant pour laisser passer un bateau. Voilà.
Donc tu pourras pas nous dire si vraiment la légende est vraie, si vraiment ce monstre existe ou pas.
Non, mais je pense que
même
si j'avais
été au Loch Ness.
Mais je pense que même si j'avais passé 6 mois à observer avec des jumelles, je suis pas sûr que je l'aurais vu.
Mais ça fait marcher quand même. Ah. Ça fait marcher le tourisme. Bon allez, on passe un morceau de musique et on continue notre petit voyage là-bas, notre périple en Écosse. I got my spirit vision, mama, she calling me. Head on collision when her heart runs free. When I'm high, a lot of people don't know but to mess me around. I've seen every kind of evil, got to get on out this town. I walk on pins and needles until I trip and fall. Right through the world and come back 10 foot tall. No time for you, mama. Diesel got my blood cranked up. Ain't no good till I'm gone. Don't wanna break your loving cup. Cause I'm king of the mountain song. Of sorrow they hang it neath her eyes, trading tomorrow for silver screen lies. Don't you wait for my leaving, cry to see me come back home. I'm a dog, you're a chain, got to let me roll this stone. Cause I'm king of the mountain, son of the road. Calling me, head on collision when our heart broke free. Got so high, loaded people, don't nobody messing me around. I've seen every kind of evil, got to get on out this town. Cause I'm king of the mountain, son of the road. I got what you want, but I ain't. Lionel, c'est pas beau ça, ça te rappelle des souvenirs. Cet été là,
magnifique.
Où tu t'es fait bronzer là-bas en Écosse.
Bronzer.
Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas prendre de crème solaire.
Alors, il faut peut-être. Quoique, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres personnes qui ont eu peut-être un peu plus de chance que moi, parfois quand même, il y a du soleil. Alors, pas prendre de crème solaire, mais alors je vous conseille de prendre un produit quand même et vous l'acheter là-bas sur place.
D'accord. Hein, oui.
Le produit anti-midge.
Ah oui, oui, c'est ça.
C'est midge. Quoi ça
midge, c'est quoi ça?
C'est une saloperie comme c'est pas possible. Je voyais que Gilles, il a acquiescé à côté de moi. Il peut conforter mes dires.
Le mot est faible.
À ce point-là, c'est des gros moustiques alors.
C'est pas des gros moustiques.
C'est quoi?
Justement, c'est tout petit. C'est comme une tête d'épingle. C'est tout petit.
C'est une ça puce. T'arrive. C'est une puce.
Ça t'arrive en. Un moucheron, un moustique, je sais pas comment c'est une midge. Ça t'arrive en nuage sur la tronche, mais en nuage. C'est une infection. Donc ça veut dire que déjà, quand tu sais qu'il y a une opportunité de midge, le fait qu'il soit qu'il fasse un peu frais et un peu humide, donc déjà le short, le t-shirt, tu le mets pas trop, mais alors quand tu sais qu'il y a les midges, tu le mets encore moins.
Bah, tu les rencontres où ces bestioles?
Alors tu les rencontres notamment dans les Highlands, quoi, en Écosse. Tu peux en rencontrer parce que j'en ai rencontré un tout petit peu au nord de l'Angleterre. Dans l'Angleterre, il y en avait un petit peu aussi. Parce que j'ai eu l'occasion de passer à un moment donné de boire une petite pinte avec un Anglais qui parlait pas trop mal français. Heureusement pour moi, c'est grâce à ça qu'on a réussi à converser. Sinon j'étais mal. Et à un moment donné, effectivement, il y avait ces petites bestioles qui étaient là. Et puis je me dis, on dirait des midges. Il me dit, ce sont des midges. Il y en a aussi un peu au nord de l'Angleterre. Moins quand même. Mais voilà. Alors les midges, quand il y a du vent ou du soleil, on les voit pas trop. Sinon, on peut les voir et assez fréquemment, assez régulièrement. Il suffit de rester immobile. Pas longtemps, hein. 2 ou 3 secondes, t'es à côté de ta moto, le temps que tu prennes pour mettre ton casque, ça y est, t'es déjà envahi. Ça rentre partout, ça s'infiltre, dans les vêtements, dans le cou,
machin. Ça pique.
Et ça te bouffe le sang.
Ah
et
ouais.
Non, c'est sérieux. Ça bouffe le sang. Alors,
je
ça bouffe
que
le sang des animaux, mais ça
aussi,
te bouffe le sang. Et après, ça t'occasionne des démangeaisons.
Ah, oui.
C'est vraiment. Je pense que Gilles, visiblement, il pourrait en toucher
donc
un petit peu.
Il faut, pour se protéger, il faut mettre une crème spéciale.
Alors, c'est pas vraiment une crème, c'est plus. C'est un produit que tu trouves là-bas aussi facilement, à 7-8 euros, la petite bonbonne. Je pense qu'il est plus judicieux de l'acheter là-bas qu'acheter quelque chose en France, parce que dans les pharmacies en France, ils vont mettre des trucs, mais qui vont peut-être pas forcément correspondre. Et puis aussi, des fois, quand tu te balades, mon fils qui était là-bas pendant un mois et demi, et que je suis allé voir, il m'a prêté aussi ce qu'ils appellent une midginette. C'est une espèce de voile de veuve que tu mets sur la tronche. Alors, t'es mignon comme tout avec ça. Et en plus, pour respirer, pour prendre des photos, c'est top de chez top. Oui. Et pour voir le paysage aussi.
J'ai compris.
Donc, ça, c'est quand même.
Midinette.
Hein?
J'ai compris une midinette. Il m'a prêté une midinette.
Non, une midinette.
T'as l'impression d'être à Guantanamo, quoi.
Bien.
Alors, tu le laisses sous le casque. Alors, tu le laisses sous le casque, t'enfiles le casque. Avec la midginette
Non, parce que quand tu roules, tu mets pas la midginette, sinon tu vois plus rien déjà. Et en plus, les midges vont pas t'attaquer quand tu roules. C'est surtout quand t'es immobile.
Il y a aussi, ces fameuses vaches à poil. J'ai vu ça sur les photos.
Oui.
À poil.
Ouais.
Les moutons, les vaches.
Oui.
Alors, sur la route, ça traverse un peu n'importe où.
Voilà. Alors surtout les moutons. Alors les moutons, il y en a vraiment. Si on veut compter les moutons, c'est même pas la peine d'y penser. Vaut mieux compter les Écossais, ils sont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins nombreux, parce que il y a quand même un certain nombre d'endroits où c'est très peu habité. On fait parfois des kilomètres, on rencontre que quelques maisons. Par contre, les moutons, il y en a effectivement des milliers, des dizaines de milliers.
Il y a plus de moutons que d'habitants, alors peut-être en Écosse.
Oh, il n'y a pas photo là-dessus. Et effectivement, il faut faire attention parce que on trouve régulièrement des moutons sur la route. Des vaches, j'en ai vu une fois sur la route, enfin sur le bord de la route, des grosses vaches, qui sont, moi je trouve très très jolies parce que des longs poils, avec des grandes cornes.
C'est pas de la vache qu'on a l'habitude de voir ici.
Non, pas du
ici,
tout.
Hein.
Pas du tout.
Figurez-vous qu'on en voit dans le Nord, hein, parce qu'on s'en sert.
J'ai jamais vu ça dans le Nord.
Si, des Highlands, il y en a, on s'en sert dans les parcs naturels régionaux ou dans les réserves.
Oui,
pour
réserve.
Monter, mais là, quelques kilomètres de ligne, il y en a.
D'accord.
Tiens, sur la côte.
Mais quand tu roules sur les petites routes ici dans la région, tu vois pas de vache.
Mais j'en ai vu la semaine dernière. Au platier de bois.
Voilà. Alors, et donc faut faire attention, il faut toujours être vigilant. Donc les voitures se croiser, donc il y a toujours une espèce de courtoisie. Chacun s'arrête pour se croiser, les vaches, les moutons, les petites routes.
Voilà, une logique.
La pluie.
Oui, voilà.
Donc ça veut dire
donc j'ai trouvé un petit côté, enfin aventure entre guillemets, tout est relatif, mais c'est vrai que voilà, il y a merci Laurent, il y a plein de choses qui changent, voilà, rouler à gauche comme je l'ai dit, payer en livres, compter en miles, parce que ça attention quand on voit voilà, quand il y a un panneau limité à 50, on n'est pas limité à 50, voilà. En fait, c'est plutôt 80.
Et aussi pour la réserve
quand on voit un panneau pareil hein, quand on voit un panneau, on se dit tiens 10 km, oh bah ça va, je suis arrivé. Non, mais c'est un peu plus, quoi. C'est plutôt 16.
Voilà. Tiens, on parle de mouton. Tu as mangé, tu as goûté. Moi, j'ai jamais mangé ce truc-là. Comment ça s'appelle?
Le haggis.
Haggis. Tu penses que c'est pas terrible?
Haggis.
Il y a Gilles qui apparemment.
Ouais. J'avais l'habitude de le prononcer haggis. Ouais. Et on m'a dit non, c'est haggis. Haggis. Apparemment. Ouais. La panche de brebis farcie.
Alors,
j'en ai mangé, j'en ai goûté. J'ai trouvé ça plutôt bon. Un peu relevé. Ça fait penser un peu à du boudin.
Ah ouais.
Qui en a déjà mangé ici autour de vous?
J'en ai mangé.
Et alors, ça te fait penser un peu à ça?
Oui, un miyashi, c'est bon.
Ouais, c'est très bon. C'est ça, hachi, boudin, enfin un peu dans... Voilà, c'est pas mauvais du tout. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé ça...
En gros, donc, tu étais resté 10 jours, donc en gros, tu t'as mangé... Tu mangeais où?
Alors,
dans des restos ou comme ça, sur le bord de la route?
Alors, j'ai mangé une fois un fish and chips.
Oui, c'est pas spécialement écossais.
Voilà, c'est...
T'as pas mangé 10 jours quand même en 10 jours.
On oublie. Le haggis, c'est pas mauvais du tout. Ouais. Avec une souvent ils font ça avec une purée, avec une purée de navets, pommes de terre, des trucs comme ça. C'est pas mauvais du tout. Alors j'ai remarqué quand même qu'au niveau de la nourriture, c'est quand même les champions de l'emballage plastique. Quand tu vas dans les, je sais pas si Gilles il a eu ça il y a une dizaine d'années aussi, c'est que par exemple les carottes, tu peux même les trouver en lamelles dans des sachets plastiques. Et mon fils qui est resté là un mois et demi, il m'a dit les fruits et légumes ne pourrissent pas bien vite, voire pas du tout. Donc de là à penser qu'ils soient vraiment traités, ouais. Tellement traités qu'ils en sont maltraités, je ne sais pas. Voilà, alors c'est ça, les légumes, les fruits un peu sous vide, voilà, le fromage, du cheddar, ou du cheddar, ou du cheddar, ou encore du cheddar,
ah oui.
Ou aussi du cheddar.
Ah bah c'est vrai, mais y a pas de problème pour le choix, quoi. Voilà, très bien. Bon, écoutez, on va passer un morceau de musique, et après on va terminer, parce que tu es allé sur cette fameuse île de Skye.
Oui.
C'est pareil que c'est un endroit magique où forcément, où il faut aller.
Non où, d'une part, oui. Mais j'ai trouvé d'autres endroits aussi, magiques, voire même peut-être encore plus magiques.
La petite côte aussi, il paraît que la petite côte là, qui est juste sur le côté là, de l'île de Skye, où est la route la plus belle du monde, on m'a dit ça.
Je sais pas.
Non, tu sais pas. T'as pas fait toutes les routes du monde, donc tu peux pas savoir.
Non, voilà.
Voilà. Allez, on se retrouve après.
Fair for your honest, sonsy face. Great chieftain of the puddin' race. A brin' them all, ye tack your place, pinch, tripe. Or fear we'll are your worthy old grace as blind as my shelf.
nature est chez elle, c'est bien l'Écosse, Lionel.
Tout à fait.
Hein, voilà. Donc on continue un peu ton trajet là. Hein. T'es passé donc. On va parler de cette île de Skye qui est apparemment très belle. J'étais voir sur des sites. Tous les voyageurs m'ont dit. Enfin, c'est écrit que vraiment c'est fantastique. C'est bien une chose à voir, aller voir cette île.
Alors effectivement, ça fait aussi partie de la carte postale écossaise, c'est-à-dire l'île de Skye, c'est des incontournables. Alors j'ai énormément apprécié, mais il y a des endroits autres que peut-être j'ai un peu plus apprécié. Alors j'ai énormément apprécié l'île de Skye. C'est quand même très touristique. J'y suis allé ce jour-là, j'ai pris des seaux d'eau, douche écossaise, je sais ce que c'est. Je me suis arrêté 2-3 fois pour laisser passer parce que c'était vraiment trop. À un moment donné, c'était ma sécurité qui était menacée parce que je voyais plus rien, ça glissait trop, c'était vraiment des trombes d'eau. Donc je me suis arrêté 2-3 fois sur les journées, mis à l'abri le temps que ça se passe et après je repartais. Et après c'était un peu plus calme. Voire il pleuvait plus, puis des fois ça reprenait à un moment donné quoi. Et donc l'île de Skye, c'est alors très joli paysage qui a priori semble très sauvage, mais qui sont quand même pas mal envahis par les touristes. Et puis il y a les incontournables comme Old Man's Tor. Voilà, qui est une roche particulière, qui fait penser à un vieil homme sur une montagne, etc. Une espèce de sculpture naturelle. Et puis il y a Kiltruak. C'est au bord de la mer, c'est des falaises, et il y a un endroit effectivement, la mer a joué, enfin les éléments ont fait que ça peut faire penser à une roche en forme de kilt. Voilà, avec une cascade avant. Donc c'est des coins très jolis. Je suis resté un petit peu prudent parce que, alors c'est vrai que c'est incontournable. Je pense que si on va en Écosse, il faut le faire. Sauf que c'est quand même assez touristique. Puis on sent quand même que, il y a des endroits comme Kiltruak, il y a du grillage, c'est balisé, il y a des panneaux, il y a des machins, il y a des bus avec des Japonais. Enfin voilà,
c'est victime sans succès.
J'ai rien contre, hein, mais bon. Voilà, on sent que... Et pourtant, le jour où je l'ai fait, il faisait un temps vraiment assez épouvantable et il y avait quand même du monde.
Il y avait du monde.
Y compris des randonneurs à pied ou à vélo. Bon. Et je me suis dit, déjà, moi, à moto, c'est galère avec le temps qu'il fait. Bah, je me suis dit, il y en a qui font bien mieux que
moi. Alors, apparemment, le mois d'août, c'est pas vraiment le meilleur moment pour aller visiter, pour partir en balade là-bas, en Écosse. Ce serait plutôt début juin.
Début juin, les 15 premiers jours.
Parce que le temps est peut-être plus favorable et il y a moins de touristes.
Ah, ça, c'est certain, voilà. Oui, tout à fait.
Donc, en fait, je ne m'attendais pas forcément à voir à ce que ce soit aussi touristique que ça. Sérieusement, je me disais, on connaît tous un peu les bords de Méditerranée en plein été qu'on fouille, enfin, pour ma part, à grandes enjambées. Bon, je me disais, l'Écosse, vu la fraîcheur un peu ambiante et la météo, je me dis, ça ne va pas être non plus, mais il y a pas mal de monde. Et donc, je suis allé me balader aussi, pas très loin de l'île de Skye, le nom c'est Applecross, mais il n'y a pas que ce petit village là, mais ça c'est il y a ce petit village et puis d'autres balades à faire. Et là franchement j'ai des routes touristiques magnifiques, somptueuses, des paysages à la limite je serais tenté de dire faites l'île de Skye parce que c'est un incontournable, mais allez surtout encore plus au nord et
ça c'est nord-ouest
en restant à l'ouest, ouais, toujours à l'ouest, hein, ouais. Parce que bon le nord-est visiblement de ce que j'ai pu voir et entendre, et j'ai des amis qui sont allés il y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans, ils m'ont dit l'ouest c'est super, l'est ça l'est quand même moins. Au niveau des paysages, j'entends bien. Hein. Et donc, Applecross, ce coin-là, c'est vraiment, il faut passer par là. Il y a des petites routes de montagne abruptes, il y a des paysages à couper le souffle, c'est vraiment à faire. Quoi. Il faut vraiment aller en Écosse. Voilà, ça vaut la peine, ça vaut le coup. Alors, vas-y.
Non, mais Yannis qui posait une question. Alors, les Écossaises ?
Non, c'est pas les Écossaises. Je demandais d'abord comment sont perçus les motards par les Écossais, les touristes à moto. D'abord, est-ce que tu en as rencontré beaucoup, des voyageurs à moto? Comment ils sont perçus, accueillis? Et puis, c'est mes questions. Est-ce qu'il y a des infrastructures spécifiques pour les motards en balade, en voyage en Écosse?
Alors, les motards, j'en ai pas vu énormément. J'en ai croisé quelques-uns, j'en ai pas vu énormément. Alors, il y a une chose qui m'a un petit peu
interpellé. Et puis en même temps, alors je ne sais pas si c'est une logique ou pas, c'est qu'effectivement, bon, en France, il y a le signe du motard qui se fait quand même, qui reste, qui perdure plutôt bien. Là, c'est vrai qu'en Angleterre, en Écosse, je ne l'ai pas trop senti, voire même pas du tout. En même temps, je me suis dit, il y a déjà un problème technique. C'est-à-dire que quand on a un moto, forcément, nous, on accélère avec la main droite. On est d'accord, vous me suivez, les auditeurs. Quand on est en... Donc, la main gauche est libre pour faire signe. Sauf que là, quand on est en Angleterre ou en Écosse, ben normalement, on est censé faire signe avec la main droite. Sauf que si tu lâches l'accélérateur, tu n'es pas habitué à ça. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, peut-être que c'est aussi un des obstacles qu'il fait. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, y a pas le signe... Enfin, moi, je ne l'ai pas senti. Ouais. Je ne sais pas si Gilles... bon, voilà. Alors, l'accueil des Écossais, moi, je l'ai plutôt bien perçu. Je trouve qu'on est très bien accueillis, y compris au nord de l'Angleterre et en Écosse. Vraiment, j'ai été... Le peu que j'ai pu côtoyer les Écossais, j'ai été vraiment super, super bien accueilli. Alors, est-ce qu'il y a des choses spécifiques pour les motos ? J'ai pas eu trop l'occasion de tester. J'ai juste testé un truc à Édimbourg. J'ai fait une petite escale d'une petite demi-journée à Édimbourg, qui est une ville superbe, très vivante et très jolie à voir, des vieilles pierres, etc. Et mon fils m'avait dit, t'embarques surtout pas dans le centre d'Édimbourg en moto, reste sur le périph, y a des parkings gratos, et après tu prends un bus un peu payant, quelques livres, machin, etc. Et puis j'ai dit, oh, j'ai pas envie de prendre le bus, j'ai pas envie de machin, j'ai dit, allez, je vais faire mon têtu, je vais aller directement dans le centre d'Édimbourg en moto. Sans GPS, je le rappelle. Franchement, j'ai fait fort sur ce coup-là. Je reconnais que... Donc, j'ai réussi. Et pour répondre impartialement à ta question, à un moment donné, je me suis dit, je sais pas du tout où je vais me stationner parce qu'il y a des grosses bordures, des gros machins, etc. Et j'ai vu dans le centre d'Édimbourg un tout petit parking où il y avait 7-8 bécanes. Et c'était un parking gratuit pour bécanes. Et j'ai trouvé ça sympa parce que j'ai pu me stationner, j'ai pu aller me faire la balade dans Édimbourg. Donc, en tout cas, à Édimbourg, j'ai trouvé dans le centre même, dans le vieux centre historique, un petit parking moto gratuit. Après, pour le reste, bon, mais en même temps, les paysages que j'ai vus, c'est quand même très sauvage. Il y a quand même pas, à mon avis, comme dit Gilles, si on y va au mois de juin, je ne dis pas qu'on est tout seul, mais on ne doit pas être bien loin. Quoi.
T'as pas vu d'hébergement hôtelier pour les motards avec des équipements?
Pas particulièrement.
Parce que je sais que ça existe en Écosse, il y en a beaucoup en Allemagne, par exemple. Ouais. Il y en a pas mal en Suisse, en Autriche, mais là, en Écosse, t'as pas remarqué?
Non, ce qui veut pas dire qu'il y en a pas, hein. Mais j'ai pas.
Bon, très bien, Lionel, on va conclure cette balade en Écosse. Est-ce que tu penses retourner là-bas ou?
Non, oh, pourquoi pas? Oui, non, j'aimerais peut-être encore aller y retourner, peut-être aller plus sur Apple Cross dans ces coins-là parce que j'ai vraiment bien aimé. Puis je pense que je suis resté un peu sur ma faim. Peut-être monter un petit peu plus au nord-ouest là, parce que effectivement mon fils m'a montré aussi des photos avec des jolies plages de sable fin, avec des coins très sauvages. Donc pourquoi pas?
Make me surprend, c'est la dextérité de ces hommes.
106,6.
Vraiment, là, il n'y a rien de semblable dans toute l'histoire des techniques de ce siècle.
Nous sommes avec Philippe, de coordinateur de la FFMC 59. Comment tu vas bien, Philippe ?
Ah, bah très bien. J'espère que tout le monde va bien parce que on a redémarré.
T'as redémarré quoi, ta moto ?
Non, la moto ne s'est pas arrêtée. Elle, si, elle s'est quand même arrêtée quand je ne suis pas dessus. Mais voilà, non.
La saison
La saison motarde redémarre après de belles vacances, bien chaudes, bien. Oui, bien chaude, effectivement.
Chaude par la température ou
par la température, par la température. Mais oui, bien chaude. Et d'ailleurs, ce qui peut poser problème, d'ailleurs, c'est qu'on voit beaucoup de motards par temps chaud abandonner leur blouson, leur pantalon pour faire du short, du t-shirt.
De la sandalette.
La sandalette. Et moi, je dis, quand il fait chaud, que tu veux rouler en t-shirt et en short, prends pas ta moto, mais prends ton vélo. Quoi.
Et toi, tu roules avec ton blouson quand il fait 40 degrés ?
J'ai investi dans des blousons à trous. Et les blousons à trous avec des petits trous, fait pour. Hein. J'ai pas fait des trous dedans.
Ah ouais ?
Non.
D'accord.
Non, des vrais blousons qu'on achète chez le commerçant. Des vrais blousons. Ouais.
T'en as avec un système de refroidissement aussi.
Alors, oui, ça c'est.
Et réversible, qui puisse être chaud en été, en hiver et froid en été.
C'est effectivement. il y a un système qui existe qui fait moins 15 degrés sur en été et plus 15 pour l'hiver. En fait, c'est un petit gilet réversible, comme tu dis, avec un petit boîtier qu'on met sous le top case.
Moi, j'en ai vu un avec un ventilateur.
Ça, c'est un hélicoptère.
Rouler avec un ventilateur, quelle drôle d'idée.
Oui, non, voilà, bon, mais ce sont des matériels qui restent
onéreux,
mais
cher
pour l'inventeur, très très efficace, et pour l'avoir essayé, c'est vraiment très 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 efficace.
Mais sinon, t'étais pas venu nous parler de tes fortes chaleurs d'été, t'étais venu nous parler de la FFMC et de son engagement récent au niveau européen.
Alors la FFMC, oui, dernièrement, c'est le 24 septembre. Hein. Nous avons accompagné depuis le Portugal, alors pas la FFMC 59, mais la FFMC accompagnée depuis le Portugal, une délégation portugaise qui se rendait au Parlement européen. Alors pourquoi ils se rendaient au Parlement européen? Puisque les Portugais ont obtenu par la loi de ne pas avoir de contrôle technique chez eux. Hein, ouais. Voilà, donc par contre, ce qui les inquiète fortement, et nous aussi d'ailleurs, même si on a le CT et qu'on continue à se battre contre lui, c'est qu'il y a des projets au niveau de l'Europe d'uniformiser le contrôle technique automoto sur l'ensemble de l'Europe et d'interdire de fait les mesures alternatives. Donc ça veut dire que si ce texte-là passe au niveau européen, la prochaine directive empêchera les pays membres de ne pas faire de CT et d'être obligés de vraiment là de faire
donc
de CT.
Donc c'est encore un peu moins de pouvoir pour les pays membres. Ils vont devoir respecter la décision de...
C'est une restriction, une restriction des directives, puisque les directives en général donnent des objectifs, mais laissent la liberté de choix aux États de prendre les bonnes mesures. Et voilà. Donc c'est pour ça effectivement qu'on accompagnait nos amis portugais. D'ailleurs, il y avait aussi un député portugais présent dans la délégation, qui est lui-même motard. Donc on les a accompagnés, on les a reçus avec la 62, la 80 et autres. On les a reçus sur l'aire de la Sentinelle à Valenciennes et on a fait bout de route avec eux jusqu'à Bruxelles. Comment
les Portugais se sont rapprochés des Français ou inversement?
C'est un copain de Paris qui était au Portugal et il a rencontré nos amis portugais. Et c'est là-dessus qu'est venue l'idée de monter et de les accompagner. Donc en fait un peu une... Mais voilà, et la FFMC a pris toute sa place dans l'accompagnement. Ils ont été accompagnés du Portugal jusqu'à Bruxelles.
Et ils ont été reçus à Bruxelles ?
Bien sûr, à Bruxelles, ils ont été reçus par le vice-président de la commission des transports, puisque c'est elle qui va gérer, ce qui gère ce genre de directive. Ils ont été reçus, ils ont remis une pétition contre le CT, et puis ils ont pu discuter. Donc ce qui en ressort, c'est qu'il faut continuer le lobbying. Lobbying à la fois auprès de la Commission européenne et de cette commission transport. Bon, ça, pour ça, on a la FEMA, Fédération européenne de motocyclisme, des adhérents d'associations de motards, qui est déjà intervenu, est déjà contesté et qui continue à intervenir. Mais nous aussi, il faudra qu'effectivement, au niveau de nos députés européens, les amener à penser que ce qu'on va leur proposer n'est pas forcément de bon sens.
Alors, nos amis motards portugais, on leur souhaite bon courage.
Philippe. Oui, déjà félicitations par rapport à ce qu'ils ont obtenu, gagné. Et puis continuez bon courage
pour le reste.
Oui, tout à fait. Oui. Mais ça nous concerne aussi, nous.
Alors, comment ça se passe au Portugal? Il y a une fédé?
Alors, le Portugal, c'est un groupement de motards, c'est le GAM, c'est le groupement d'associations de motards, je ne sais pas, associations.
Enfin, ça ressemble à la FFMC en France?
Pas tout à fait, c'est plutôt des motoclubs qui se regroupent. Alors, je n'ai pas tous les éléments parce que je ne connais pas toutes les FFMC d'Europe, mais je crois que c'est plutôt autour de motoclubs qui s'organisent et qui ont créé une association commune.
Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette histoire?
Qu'est-ce que ça va donner on va dire qu'il y a des actions qui seront prévues encore.
En fait,
il y a une pétition qui tourne.
Alors, il y a une pétition qui tourne, on continue contre le CT, alors qui a été initiée par une de nos adhérentes, qui est au niveau une pétition à l'Assemblée nationale, au même titre que la pétition Loi du plomb. Pour l'instant, elle est à 54 000, il faudrait quand même encore progresser, puisque pour pouvoir être examinée, il me semble qu'il faut qu'elle passe les 500 000. On en est loin, mais bon, c'est une des pétitions qui passe au mieux quand même au niveau de l'Assemblée nationale, donc ça veut dire quand même que les motards se sont mobilisés. Il faut continuer à se mobiliser.
Très bien, Philippe. Voilà. Qu'est-ce qu'on les prochains rendez-vous là? Parce que là, on est au mois de fin septembre. Prochain rendez-vous?
Les prochains rendez-vous de mobilisation de la FFMC. Donc on a, bon, alors ça c'est de l'interne, mais on a une réunion, notre réunion interdépartementale qui va se passer à Rouen le 10 et 11 octobre. Oui, c'est 11, 10 et 11, oui. On a aussi notre formation en novembre, comme on fait chaque année, qui va réunir à peu près 200 motards, 200 bénévoles de la FFMC. On va débattre, échanger sur notre fonctionnement, sur l'actualité et faire de la formation aussi. Voilà. Et puis, je peux tout de suite annoncer, c'est que notre fête de la moto 2026 aura lieu les 13 et 14 juin.
Et
toujours,
où
toujours à Neuf-Berquin.
Très bien.
On a de la place dans le calendrier encore, on pourra la mettre.
Très bien, Philippe.
Voilà, ouais. Voilà. Un dernier point aussi, c'est qu'on a fait une petite action, enfin pas une petite action, mais on a soutenu une cause qui est peu connue. Alors c'est autour des violences faites aux femmes. Avec l'association Prime-toi, c'était sur Valenciennes, c'était la semaine dernière, c'était le week-end dernier, le 24. Et là, ce qu'on a voulu mettre en valeur, c'est que dans les violences faites aux femmes, les enfants sont invisibles de ces violences-là. Et c'est au titre de cette, de mettre en valeur, mettre en lumière en fait, les violences faites aux enfants dans le cadre des violences conjugales. Et on a fait ça avec l'association Prime-toi. Plus d'une cinquantaine de motos sont venues, ce qui est pas mal pour une première. Et on a fait une belle balade dans la Vénois et les gens ont été très contents de cette balade.
Du coup, la moto,
on le refera. Ouais.
Du coup, la moto peut aussi sensibiliser à un certain nombre de causes.
Tout à fait. On est motard, alors motard et citoyen, et la citoyenneté, c'est aussi soutenir des causes comme celle-ci, comme d'autres, qui peuvent être le handicap, par exemple, comme avec HMS. Je veux dire, il y a beaucoup de choses en tant que motard, on peut soutenir en tant que citoyen. Motard
bravo.
Et citoyen.
Moi, je dis que c'est bravo, c'est beau, et ça sera le mot de la fin. Merci Philippe, et à bientôt sur les ondes.
Et bon courage aussi.
I spend my money, but still.
Alors nous sommes avec Fabrice. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Alors Fabrice, tu es de Lens,
oui.
Du Pas-de-Calais. Et la particularité, c'est que tu es un jeune motard de 60 ans, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout à fait.
Donc tu as passé ton permis quand ?
Le 2 avril, pardon.
Le 2 avril.
Ouais. 2 avril 2025.
Ouais. Hein, 2025, donc voilà. Tu avais déjà 60 ans là, à l'époque ?
Non.
Non, non. T'en avais que 59.
Voilà, tout à fait.
Et tu dis, avant mes 60, il faut que j'ai le permis moto.
Pour la retraite.
Oui. Pour la retraite, c'est cool ça.
Bah oui.
Et pourquoi tu l'as pas passé avant ? C'était un vieux,
non,
un,
c'était, bah,
un
c'était,
vieux rêve.
C'était un vieux rêve, de, on va dire, depuis des années. Mais bon, il y a eu quelques complications au niveau de la vie.
Ouais, j'imagine. Bon, ouais.
J'avais une moto, je l'ai vendue, on me l'a pas payée, on me l'a volée.
T'avais une moto là que t'avais pas le permis ?
Bah, une 125.
Une 125, hein, oui, ouais, d'accord. 125. Autant pour moi, une 125.
Donc j'avais okay. 125, on me l'a volé. Après, j'ai eu quelqu'un de la famille qui est décédé en accident de travail, mais en moto. Et après, il s'est pris une voiture de face.
Donc ça t'a refroidi ?
Un petit peu. Et après, bah, y a eu les filles qui sont arrivées.
La famille, tout ça. Quoi.
C'était les filles en priorité, moi je passe en dernier.
Ouais, c'est normal. C'est normal. La famille d'abord.
La maison. Voilà.
C'est normal d'assumer ses responsabilités.
Tout à fait. Tout à
c'était
fait.
Quoi ton 125 ?
C'était un trail aussi.
Un trail ?
Africa Twin.
Africa Twin ?
Ouais, c'est la première.
Africa Twin, ouais.
Ouais.
Première
mais pour moi, une 125, c'est déjà une 125.
Ah non, la 125.
Pour moi, une 125, c'est déjà une moto. Africa... Hein. C'est déjà une moto. Hein. Ouais. Quand tu dis que tu as passé le permis moto, en fait, tu veux dire que tu as passé le permis gros cube.
Voilà, ouais. Tout à fait, ouais. Le A2. Ouais. A2 pour arriver après haut. Hein.
Donc là, tu es limité à 48 chevaux encore, c'est ouais, ça ouais. Pendant deux ans.
T'avais quand même une expérience, comment en 125 ?
Bah ouais, quand même.
Ah ouais, quand même.
Combien de temps t'as roulé en 125 ?
Bah, je roulais en 125, j'ai roulé 5 ans. Après, je suis repassé au scooter, 125. Et puis après, j'ai revendu le scooter pour pouvoir acheter la moto.
Ah bah, 5 ans de 125, c'est bon, tu sais rouler sans
ouais,
problème.
Oui, tout à fait, oui.
Ça a dû être une formalité, le permis.
Ça a été un petit peu dur quand même, au niveau du plateau.
Ouais. À cause ouais, des conneries ou voilà. À tourner autour des gilets
voilà,
des conneries, machin. Et...
Ouais. Alors voilà, ce serait bien que tu nous racontes l'histoire, comment ça s'est passé dès le début. Tu vas t'inscrire à la moto-école hein, et tu nous dis un petit peu, bah, voilà, il faut repasser le code, je suppose.
Oui, il faut repasser le code.
Bon, le code, ça a été ?
Ça a été. Ouais. Bon, ça fait quand même des années que je roule en voiture, en camion.
Oui, mais le code, c'est compliqué parce que c'est...
Tu rigoles ?
Il y a plein de...
Mais quand j'ai repassé le code, j'ai pas eu. Hein.
Non, non.
Ah bon ?
Il y a plein de questions à la con.
Le poids total en charge, ouais, genre de conneries, tu vois.
Des
ouais.
questions à la con, il y en a. Ceux qui ont fait le code, ils ne doivent pas être futés.
Ouais.
Parce que c'est vraiment des trucs stupides.
Donc, tu l'as eu au bout de combien de fois ?
Le premier coup.
Du premier coup. Incroyable.
Balèze. Alors,
ouais, écoute, franchement.
Non, pas balèze. Elle est irréaliste. Hein.
T'avais bossé un peu quand même.
Non, pas du
même
tout.
Pas.
Même pas.
Ah, je roule déjà tous les jours en camion. Donc
nous
le code,
mais,
on le voit.
Mais justement, ouais. C'est parce qu'on ouais. roule qu'on n'est pas capable mais d'avoir le permis.
Ça n'a rien à voir. Le code, c'est une interprétation de la route.
Oui, oui.
Tu peux pas mettre ça. Interpréter le code quand tu es sur la route, c'est différent de ce qu'on apprend. Quoi.
Oui, c'est ce qu'on apprend, mais c'est ce qu'on ne voit pas en réalité.
Ouais.
Là, j'ai une question à l'examen, une question conne, dans un virage, mais avec des montées et des descentes, en plein de virage, on demandait si on pouvait doubler. Bah, moi, je réponds non, mais si, on peut doubler.
Ah.
Malgré qu'on n'a pas de visibilité, on peut doubler.
Alors, déconner.
Ah, c'est.
Ah
ouais.
Il n'y a pas intérêt à faire ça. Hein.
Non, bah, vraiment, on ne fait pas.
Tu fais un virage à l'aveugle, tu ne vas pas doubler.
Bah non,
hein.
Mais si, on peut.
Tu le fais.
Le code nous dit qu'on peut doubler.
Ah oui, bah, tu vois, voilà. Moi aussi, j'aurais dit comme
voilà.
toi.
Ah, surtout moi.
Mais moi, je ne double pas.
Voilà. Alors, alors, le code, ça va, ça a marché. Bon, bah, un premier coup, tout ça.
Et la conduite,
et
alors
après, il y a la conduite.
Il y a le plateau.
Alors, ce fameux plateau, là.
Alors, le plateau est arrivé au niveau des quilles, le Lan. Alors, c'est une catastrophe. On va dire, en étant débutant, c'est une catastrophe. Parce qu'il faut quand même gérer le poids de la moto, gérer son stress et écouter les informations du prof, on va dire.
Ouais, ouais.
Et bien prendre en première. On nous dit souvent qu'il faut accélérer, freiner, accélérer. Non, il faut laisser partir la
ouais,
moto,
ça, ouais.
la laisser aller.
Tu la laisses aller, ouais.
Et ça va tout seul.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Comme tu es en première, en fait, la moto, elle roule toute seule. Il faut juste l'accompagner, quoi, c'est ça.
Voilà,
C'est un truc qui n'est pas naturel, parce que d'habitude, en moto, tu ne fais jamais ça, quoi.
Normalement, non. C'est encore ça. Après, il y a l'évitement. Alors, l'évitement, c'est... Je donne conseil, c'est toujours serrer à droite.
C'est quoi l'évitement ? J'ai pas bien suivi. C'est quoi l'évitement ?
Bah, c'est avec une rangée de quilles. Il y a deux quilles qui sont séparées de...
Ah, il faut passer entre les deux, c'est ça ?
Non. Il y a deux rangées de quilles.
Ouais.
Au bout, il y a deux quilles séparées. Il faut faire un S, vite fait. Il faut faire le S.
D'accord, ok. Ouais.
Et si on touche, bah, c'est éliminé.
Moi, à mon époque, il y avait deux barres en bois. Il fallait faire tomber la première, mais pas la deuxième.
Ça, c'est au Lan maintenant.
Ça aussi, ça.
Ouais. C'est au Lan quand on part. Et c'est à l'arrivée aussi.
Et rouler sur une planche aussi, ça existe
non,
encore
non, non, ça n'existe non, 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 plus.
Alors donc, ce qui est compliqué, tu l'as eu au bout de combien de fois ton...
Deux fois le plateau.
Ah, deux ah fois ouais. le plateau. Ah ouais.
Voilà. En ayant voilà. conduit une 125 voilà. pendant... Non,
ouais. Moi, j'aimerais que tu donnes des conseils à des jeunes comme toi de 60 ans qui voudraient passer leur permis moto.
Bah oui.
Que ça profite au moins cette émission de radio quand même. Hein. Voilà, que faut-il faire et que ne faut-il pas faire?
Pas stressé.
Faut y... Pas stressé, voilà.
Il faut y aller à la cool.
Ouais.
Faut prendre ça, on va dire, pas la rigolade, ouais. mais comme un jeu.
Tu prenais quelque chose avant de faire le
non.
truc?
Non.
une substance, je ne sais pas quoi, tu vois.
Je suis pas
de la coque
non.
De...
non, mais je vais tout de suite. Non. Mais non, je ne sais pas, un tilleul.
Non, rien du tout.
Une verveine.
Pour apaiser le stress.
Non, il y avait déjà le stress, donc ça allait. Ça allait.
Une tisane.
Donc, alors, s'il faut donner des conseils,
c'est bien serré à droite, à l'évitement. Ouais.
Donc c'est ce qui est compliqué, c'est ce plateau là.
C'est l'évitement. Plus compliqué, c'est l'évitement.
Oui, l'évitement.
Il faut bien regarder avant et après on y va, on serre à droite. Et une fois qu'on arrive sur l'avant-dernière quille, on se jette à gauche.
On se jette carrément à gauche.
On se jette, on essaie de l'éviter. Oui. On fait comme si qu'il y a une barrière devant.
D'accord.
Et qu'on passe à côté.
Et est-ce qu'il y a encore une épreuve de circulation?
Oui.
Oui. Avec le
l'inspecteur
derrière.
Derrière
dans la bagnole. Et ça va, ça a été.
Premier coup.
Tranquille.
Donc ça c'est ouais. pour éventuellement pour comme je répète hein, quelqu'un qui voudrait passer son permis moto, voilà. Donc la bagnole en circulation, ça va, c'est pas stressant.
Non, non.
Par contre c'est ce fameux plateau.
C'est hein. le plateau, ouais. c'est le plateau. Il ferait pas mal de le réformer ou faire autrement.
Tu as pris combien de leçons?
J'ai pris.
C'est obligatoire, non?
23 heures de leçons.
Ah, t'as pris 23 heures
ouais, de leçon, avec le plateau et, la, ouais. et les conduites.
C'est obligatoire, d'accord. Je crois que t'as un forfait.
C'est 20 heures, c'est 20 heures.
Obligé, ouais, c'est ça, ouais.
Mais j'ai quand même repris une heure avant de passer la route, avant la circulation.
Et une question qui coûte cher, ça coûtait combien?
Moi, pour moi, le plateau, il est revenu à 895 euros. Le permis complet.
Non, le permis.
895 euros.
800 balles. 880, 900 balles, quoi.
Ouais, 900
un permis
balles.
Bagnole,
900
cher,
balles, hein, 900 balles pour faire passer les motos.
Ouais. Ouais, ouais.
Voilà.
Tu regardes pas?
Ah non, peu le temps que je le voulais.
Et donc, t'as acheté quoi, là?
Une YAM, une 650.
Un trail.
Juste derrière.
Ah ouais, okay. Attends, je regarde. Je me
la blanche, la blanche.
Ah, ouais. la blanche. Mais limité à 48 chevaux. Ouais.
Et est-ce que ta formation pratique durant le permis A2 te sert au quotidien pour conduire ta moto, ta 650?
Ah oui, ça me sert, oui.
T'as appris des choses?
Oui, on apprend déjà à bien passer les vitesses, à bien ralentir, à respecter les priorités,
ouais.
à comment se comporter. Ça, c'est,
et à savoir la manier, voilà. Notamment grâce aux cônes et à tous ces machins-là, ça t'a développé un certain nombre de compétences que tu
déjà
utilises
déjà pu apprendre déjà l'équilibre, parce que c'est pas facile sur deux roues, à une vitesse, on va dire, assez élevée, pour tenir l'équilibre. Il faut déjà le...
Pourtant, avec la 125, tu avais déjà dû apprendre ce genre de trucs.
C'est pas pareil. Une 125, bon, c'est une moto quand même.
À cause du poids
Le poids, on va dire la longueur, parce que c'est un petit peu plus long.
Ouais, l'équilibre et tout ça.
Voilà.
Ouais,
c'est ça qu'il faut arriver à gérer, quoi.
Et donc le permis, tu as vraiment appris tout ce qu'il fallait pour pouvoir conduire ta nouvelle moto, quoi.
C'était une bonne expérience.
Et donc, tu envisages de passer au gros cube après?
Le supérieur, oui.
Dans deux ans, c'est ça? Dans deux ans, tu pourras. Et tu as déjà envisagé la moto?
Ben, la 1000.
La 1000 Suzuki, là, le trail. Le trail, c'est ça? Ah ouais. Ah bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Hein.
Ben merci.
Est-ce que tu as envisagé de faire des grandes balades?
Oui.
Des road trips?
Oui.
Maintenant que tu as
en dehors de France,
une moto
je sais pas où,
rouler.
Au Maroc, en Inde.
Le seul truc que je veux faire en priorité, c'est un road trip, mais en Normandie.
En Normandie?
Oui, voir les plages du
Débarquement. Il faut commencer d'abord par là et après tu verras, plus loin.
Comme j'ai de la famille en Bretagne, on peut passer en même temps.
C'est sûr qu'avant, avec la 125, tu étais un peu limité. Maintenant, tu peux envisager d'aller de faire au moins la France, voire même plus.
Au moins, oui. Mais une fois que j'aurai équipé de sacoche derrière et un peu plus.
Donc, c'est le road trip, quoi. Et l'essence même de la moto. Hein.
Ah, bah oui, c'est comme ça qu'on commence. De toute façon,
et
ce qui est étonnant, c'est que. À 60 ans, tu as décidé.
On peut encore rêver. On peut encore avoir des rêves.
Et on peut avoir
on
des rêves.
On peut encore vivre ses rêves.
Et qui c'est qui disait ça? C'était Sylvain.
Tesson.
Et des rêves, j'en ai encore, mais bon, maintenant, il faut que je finisse là.
Ben voilà.
C'est déjà pas mal.
Ouais. Je voulais avoir mon permis poids lourd, je l'ai eu.
Oui.
Je suis routier. Je voulais voir la moto, je l'ai
donc,
je l'ai eu.
D'accord.
Voilà.
Ben, écoute.
J'ai eu des filles. T'en voulais une fille, j'ai eu trois filles. C'était pas mal.
C'est incroyable. Hein.
T'auras peut-être trois motos.
Tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, tu l'as.
Pour l'instant, ça marche.
Voilà, très bien. Ben, merci Fabrice pour cette interview. Ouais, et puis j'espère que ça va servir pour d'autres jeunes comme toi de 60 ans qui voudraient passer leur permis. Et ça leur fera moins peur, parce qu'il y en a certains qui ont peur. Ils sont toujours angoissés.
Et on te dit longue route.
Merci. Et longue route.
On the run again.
Merci.
Allez, bye.
Eh bien, on termine, on revient un petit peu sur avec Lionel, sur l'Écosse. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais oublié de dire quelque chose. Très important.
C'est pas ça, c'est Gilles un peu qui m'a mis sur la voie, sur la route, c'est le cas de le dire, puisque quand il y est allé il y a une bonne dizaine d'années, il disait effectivement on a eu des routes extrêmement pentues. Et c'est vrai que ça, c'est un des éléments qui m'a surpris, y compris au nord de l'Angleterre ou en Écosse. C'est Bon, j'ai l'habitude de traîner aussi dans les montagnes et notamment dans les Alpes françaises, mais je vois rarement des routes avec des dénivelés aussi importants, je sais pas, 10, 15, 20%, j'en sais rien, peut-être. Ouais. Oui, non, il y a des endroits, c'est très, très pentu, effectivement. Ouais, tout à fait.
Très bien. Voilà, l'émission se termine. Laurent, il me fait signe. Merci Yannis d'être venu poser des questions à notre ami écossais, presque. Merci Laurent. Dimanche prochain.
Au revoir.
Bon dimanche.
À la semaine prochaine.